Je récupère un tout petit peu ce que j'ai dit ce matin où je me suis dit, mon Dieu, j'ai pensé que pour certains, je compliquais les choses. Ce que je veux que vous gardiez en mémoire, c'est deux choses importantes. La première, c'est que la tradition juive a sa Bible et peut la lire pour elle-même. Elle ne conduit pas directement à Jésus-Christ. Voilà. Ils peuvent la lire pour eux-mêmes et ils n'ont pas besoin, pour qu'elle ait un sens et pour qu'elle permette de vivre selon sa loi et sa tradition, d'avoir Jésus-Christ pour ça. La tradition, et cette Bible est en hébreu. La tradition chrétienne relie tout ce qui était la Bible des Juifs à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc on change au fond l'orientation. Et que le Nouveau Testament, qui lui est entièrement écrit en grec, il n'y a ni araméen ni rien d'autre, quelques lignes, mais en grec, relie plutôt la traduction grecque de la Bible hébraïque de la tradition juive, une traduction qui a été faite par des juifs pour des juifs, mais que les chrétiens se sont appropriés. Et donc, qui est notre Ancien Testament, c'est d'abord cette traduction grecque et derrière, évidemment, le texte hébreu relu à la lumière du Nouveau Testament, qui est le texte du monde juif. Ça va, ça? Voilà. Je veux, pour ne pas mélanger les langues, pas dire « Ah, mais est-ce qu'il y a de l'araméen derrière le Nouveau Testament ?» Peut-être, mais ce qu'on a, c'est en grec. La Septante, c'est la traduction grecque par des juifs de la Bible juive. Comment? C'est ça la Bible des chrétiens. Voilà, c'est la Bible grecque des chrétiens. Ça va? Alors, cet après-midi, je vous propose que, ayant essayé de poser les bases ce matin, on entre un peu dans le récit biblique, plutôt sous le mode historique. Parce que certains m'ont dit qu'il faut avoir clair dans la tête, et je crois que c'est important. En fait, il y a toujours plusieurs solutions quand on travaille la Bible. On peut dire, on va relire l'histoire depuis les origines et suivre l'histoire jusqu'à l'exil et puis jusqu'à Jésus-Christ, ce qu'on va faire. En même temps, on pourrait suivre l'ordre des livres. Alors au début, c'est sympa, ça coïncide. Et après, ça ne coïncide plus. Voilà. Et si en plus, on voulait suivre le moment où ça a été écrit, comme tout a été repris autour du 6e, 5e siècle, on n'en sortirait pas. Donc, je propose une cote mal taillée, c'est de reprendre le fil de l'histoire, en tout cas les récits de création, et de suivre les récits bibliques au début, et ensuite de suivre plutôt les moments historiques pour que vous ayez bien des repères historiques. Après, vous lisez les livres avec leur signification, évidemment, théologique, ceux qui disent de Dieu. Mais c'est bon d'avoir bien dans la tête les repères historiques, je crois que ça aide bien. Voilà. C'est ça que je vous propose. Et puis, quand vous sentez que c'est pas clair, que je vais trop vite ou qu'il y a des choses, vous n'hésitez pas à lever la main et à m'interrompre. On a le temps, on n'est pas en retard, tout va bien. Donc, on va commencer, si vous voulez, par, au fond, la Genèse et par ce moment, s'il y a un moment, en tout cas, qui correspond à des récits de création. Évidemment, il n'y a aucun repère historique. Personne n'était là quand Dieu créa le monde. Et quand l'a-t-il créé? On ne sait pas. Il y a une absence totale de documents écrits. L'écriture étant arrivée à Sumer et parallèlement peut-être en Égypte entre 3500 et 3000. Et elle arrive en Israël, les premiers textes en hébreu ou graffitis en hébreu, au 10e, 9e siècle. Donc, c'est après l'an 1000. 850, 900, voilà. À ce moment-là, grâce aux Phéniciens. Donc là, on est dans des documents, évidemment, littéraires, beaucoup plus tardifs. La création est racontée bien plus tardivement. Elle est racontée, donc, alors, les récits qui, au fond, se présentent comme des récits mythiques, non pas au sens de mythologie où on vous raconte des histoires de Dieu, mais mythiques au sens où on raconte l'histoire des origines en tant qu'elles fondent le présent. On est dans une civilisation et dans un mode de pensée qui n'est pas le mode de pensée de la raison raisonnante, qui n'est pas le mode de pensée, alors encore moins scientifique, mais même le mode de pensée spéculatif de la logique grecque, qui cherche un principe. on est dans un mode de pensée où on raconte, c'est ça le mot grec mutos, ça veut dire le récit, où on raconte, et c'est le récit, ce récit où qu'on met en scène des origines, qui va donner les fondamentaux de ce qu'on vit actuellement. Ça va ? Voilà. On pose à l'origine et dans une narration, dans des événements qui se passent, qu'on inscrit dans une histoire qui est évidemment faite pour l'occasion, ce qui paraît fondamental, ce qui rend possible et qui a un sens pour la vie d'aujourd'hui. Et cela, ils l'ont fait à différents moments. Ils l'ont fait aux alentours du 8e, 7e siècle, en lien avec la Syrie menaçante, et puis surtout au 6e siècle, à Babylone et après. Dans ce récit de la Genèse, c'est les 11 premiers chapitres. Je vous ai déjà dit ce qui était important, je le rappelle. On est influencé et on repense des récits antérieurs ou contemporains des peuples avoisinants et on les remodèle pour les mettre sous l'autorité du Dieu unique, qui ne crée plus par la violence mais par la parole et par son souffle, ou qui est un Dieu potier mais qui façonne l'homme pour lui donner son souffle et comme partenaire pour lui confier la création à gérer, qui met tout cela sous l'angle d'une bénédiction première et au fond d'un monde qui est un monde créature séparé de Dieu. Alors on parle beaucoup, et je vais là aussi introduire quelques mots qui peuvent aider à comprendre ces textes, on parle beaucoup de la création comme séparation. Parce que, au fond, les récits de création ne sont pas du tout ce qui viendra nettement plus tard, pas avant le 1er siècle, à mon avis, avant notre ère, peut-être après, la création, comme on dit, ex nihilo, Dieu a créé à partir de rien. Si vous ouvrez la Bible, il n'a pas créé à partir de rien. Il a mis de l'ordre dans le bazar qui était le tohu-bohu. Vous savez, tout était, je ne sais pas comment on dit maintenant, comment on le traduit, tohu-bohu, confusion et mélange. Le tohu-bohu. Il y a une espèce de chose qui précède. En tout cas, l'action de Dieu par la parole et par le souffle, ça consiste à séparer parce que c'est dans la fusion qu'on meurt, que tout meurt en se détruisant, et ça c'est vrai aussi dans la psychologie humaine, et dans la séparation et la mise en distance d'une chose et d'une autre, d'un homme et d'une femme ou d'un homme et d'un autre homme, qu'est possible la vie. Donc Dieu, pour que la vie émerge, sépare. Voilà. Sépare le ciel de la terre, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, etc. En même temps, cette création, elle est séparée de lui. Elle ne va pas être habitée, comme dans les autres civilisations et les récits mythologiques, par des dieux qui viennent faire un petit tour sur la terre. Dans les récits mythologiques, prenez chez les Grecs, si vous connaissez les Romains, les dieux passent leur temps à venir faire un petit tour pour visiter tel mortel, tel machin, etc. Bon, on connaît tout ça. Là, non, Dieu crée en dehors de lui quelque chose qui a son autonomie. Voilà, la création est autonome. Elle est vouée à la bénédiction. Dieu la confie à l'humanité, à l'homme et la femme, pour qu'il la domine et la soumette dans le premier récit, pour qu'il la serve comme on sert Dieu lui-même et qu'il la fasse grandir dans le second. Et dans tous les cas, c'est un monde de douceur, c'est un monde où il n'y a pas de violence. Vous savez que dans le premier récit, la nourriture, je ne suis pas végétarienne, hein, mais la nourriture donnée à l'homme et à la femme, c'est de tous les herbes et des plantes et des arbres du jardin, tu mangeras. Et c'est une nourriture végétale. Le vivant commençant pour les anciens, pour les Grecs aussi d'ailleurs, à l'animal. Voilà. Donc pour qu'il gère cette création qui lui est confiée dans la douceur et normalement dans l'harmonie avec Dieu. Donc les humains sont créés comme partenaires. Ceci dit, ça j'allais dire c'est ce qui est posé comme fondement, ça reste au fond ce qui est mis au début, c'est le plus profond. Vous voyez, le principe du mythe c'est de mettre à l'origine et de raconter comme un récit d'origine ce qui vous fonde. Et ce qui nous fonde, c'est ça. C'est ça. Dieu crée un monde séparé, qui a son autonomie, confié à l'homme et à gérer dans la douceur, comme lui l'a fait par la parole et par le souffle. Après, on regarde le monde tel qu'il va. Et le monde tel qu'il va et tel qu'on le connaît, il faut quand même aussi l'expliquer autrement parce qu'il est envahi, rongé, détruit par la violence et la mort. Et donc, on va dans un second temps du récit, parce que c'est secondaire, introduire la réalité de la violence et de la mort. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis en train de lutter contre une présentation de l'humanité. L'homme était à l'origine pécheur. Le péché originel. Ben non. Ce qui est originel, c'est la bénédiction divine. C'est la création confiée pour que ce soit bon. Ensuite, il vient largement, et je ne vous dirai pas le contraire, le péché, la violence, la mort, le mal, la refusion, la destruction, en veux-tu, en voilà. Mais ce n'est que secondaire. C'est ça que la Bible dit. Ça ne vient qu'au chapitre 3. Ça s'introduit comment, cette affaire-là ? Ça s'introduit comment ? Eh bien, je vous l'ai dit ce matin, on invente ou on reprend de Gilgamesh le serpent qui vient voler. Qui vient voler quoi ? Qui vient introduire le doute, le soupçon, en fait, quelque part, détruire la confiance. Ce monde qui vit sur la confiance d'un Dieu bon dans sa créature, Dieu a confiance dans l'humanité, dans ses humains, les humains ont confiance. La foi, c'est d'abord la foi de Dieu, hein. La foi biblique, c'est d'abord Dieu qui a confiance dans une humanité, il lui fait crédit, c'est aussi le mot foi qui veut dire ça, puisqu'il lui confie l'univers. Il y a quelque chose qui s'introduit là-dedans, c'est le doute, le soupçon, ce qui casse la confiance, ce qui détruit. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un deuxième Dieu, un Dieu du mal qui s'introduirait à ce moment-là ? La Bible répond non. Non, non, vous n'avez pas de Dieu du mal, de Tiamat qui se réveille, les forces de la mort ne se réveillent pas, contre ce qui sera ensuite le manichéisme, mais qui est déjà un certain type de dualisme dans les civilisations environnantes, la lutte des dieux bons contre les dieux mauvais. Dieu du mal contre le Dieu bon. Ça, la Bible dit non, dès le début. Il n'y a pas de Dieu du mal en face du Dieu de bonté et de bénédiction. Il y a quelque chose, une espèce de serpent, un truc qui s'insinue. Alors, on n'aime pas les serpents. C'est des bêtes cachées qui s'infiltrent dans la maison et qui viennent tuer. Donc, ça prend la figure du serpent. Puis le serpent est collé à la terre. Enfin, il a plein de défauts, le malheureux serpent. On peut aimer les serpents, hein, mais ce n'est pas grave. Voilà, mais la question c'est intérieur à l'homme ou c'est extérieur ? D'où vient le mal ? Ça, c'est la question, j'allais dire, à ne pas poser. Parce que c'est la question qui n'a pas de réponse biblique. Il n'a pas de réponse biblique. La réponse, la question qui entraîne immédiatement, il y a un Dieu mauvais, bien sûr. Et alors après, on assiste au combat en marquant des points. Qu'est-ce qu'il emporte ? Bon, on a l'impression que le Dieu du mal l'emporte tout souvent. Hein. Donc la Bible dit non à ça. Il n'y a pas de Dieu du mal. Le serpent, c'est le doute, c'est le « je ne fais pas confiance à Dieu », c'est à la fois extérieur et intérieur. Alors on dit c'est la liberté humaine, certainement. L'astuce de l'image du serpent, elle est très forte. C'est que justement, oui, il y a la liberté humaine, mais d'où elle vient la tentation ? D'où elle vient l'épreuve ? Dans le récit de Caïn et Abel, qui est le vrai récit des commencements, dès qu'il y a deux hommes, ils s'entretuent. Dieu dit à Caïn, la bête est tapie à la porte de ton cœur. Elle est à la porte de ton cœur. Dehors, dedans, je ne donnerai pas la réponse, hein, j'en sais rien. Je ne sais rien du tout. Je vous décris ce que la Bible fait. Elle nous dit, voilà, le doute, le mensonge, le fait qu'on ne croit pas ce que Dieu dit, donc il ment, donc je lui mens, donc on entre là-dedans, le manque de confiance. Ça vient du dedans et du dehors, ça submerge au fond la volonté humaine, ce que dira Paul, ça submerge ma volonté. Donc, ce n'est pas que ma faute à moi. J'aurais quand même pu un peu résister, hein, si j'avais été honnête. Mais enfin, bon, voilà. Ça vient, on ne sait pas d'où. D'où vient le mal, c'est la question. Et la réponse, c'est, eh bien, le mal est là, mais Dieu, de tout son pouvoir ayant donné autonomie à la terre, vient vous aider à lutter contre. Et les 9 premiers chapitres, les 11 premiers chapitres de la Bible, à mon avis, de 1 à 11, ces récits d'origine, ces récits mythiques qui vont jusqu'au déluge et à Babel, sont là pour poser l'idée que contre l'amplitude, l'amplification, l'envahissement, comme un déluge du mal qui submerge tout, Dieu vient lutter et donne à l'humanité les moyens de lutter. Je crois que c'est ça la signification de ces 11 premiers chapitres qu'on lit et qu'on relit tout le temps en se disant mais on n'y comprend rien et c'est infini les significations. Donc le chapitre 3 de la Genèse avec l'homme et la femme qui doutent de Dieu, veulent être par eux-mêmes comme des dieux et donc finalement cassent la confiance et transgressent et font un geste donc de violence. Ensuite Caïn et Abel, dès qu'il y a deux frères ou deux hommes, peu importe, ou un homme et une femme, il y a du meurtre, il y a de la violence. Voilà, il y a de la violence. Et donc ensuite, c'est, mais comment éviter qu'avec cette violence, l'humanité aille au désastre? Et au fond, la question que les gens se posent, c'est, mais comment se fait-il que nous ne soyons pas allés au désastre? Et pourquoi on est tout le temps tenté par le désastre? Tout le temps, l'humanité, et à l'époque où ils écrivaient ça aussi, côtoie des abîmes de destruction, de violence, la déportation de toute la population du Nord par les Assyriens, Jérusalem détruite par les Babyloniens, et partout, sans arrêt, des guerres, des crimes, etc. etc. Donc, comment est-ce qu'on peut vivre en luttant là contre? Le récit veut que, montre qu'à un moment donné, il peut y avoir une submersion par la violence. Alors là aussi, on prend des vieux récits qui existent partout dans l'Antiquité, les récits d'envahissement par les eaux, le déluge. Dans le nord, dans les pays assyriens et babyloniens, plus que le déluge, ce qui était dangereux, c'était les inondations. Il y a le déluge et l'eau monte et noie tout. Il y avait peut-être, dans les peuples méditerranéens, on dit ça à propos de Platon, le souvenir d'un volcan éclatant, qui avait éclaté et l'Atlantide, le continent englouti. En tout cas, ce qui hante la mémoire des peuples environnants d'Israël, je ne l'ai pas dit ce matin, mais on pourrait en rajouter tout le temps, c'est bien cette idée que le monde a frôlé l'engloutissement lors d'un ou de plusieurs déluges. Or, on en est sorti. Comment ? La Bible relie ça, les auteurs relient ça. Le personnage de Noé, c'est le juste, un juste, il suffit d'un juste. Il y a déjà cette idée. Après, on dira, il en faut 10 avec Abraham. Mais là, il en faut un juste pour que l'humanité soit sauvée. Et ce juste, il va devoir apprendre à gérer la violence. Sinon, ça va recommencer. Et d'ailleurs, ça a recommencé. Mais, voilà. Et comment est-ce que la violence est gérée? C'est l'histoire de Noé au chapitre 9, avec un enseignement très très fort, une alliance que Dieu fait avec Noé. Alors, on parle des commandements noachiques, de l'alliance de Dieu équivaut pour tous les êtres humains, puisque Noé recommence tout à lui seul. Il y avait une femme quand même avec, et puis quelques enfants, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un sacrifice qui est offert, Dieu fait alliance, et Dieu impose une loi. Donc la loi, c'est ce qui va réguler ou essayer de réguler la violence. Et donc la Bible nous dit tout de suite, dès ses premiers chapitres de la Genèse, alors même que le don de la loi aura lieu beaucoup plus tard dans l'Exode, en Exode 19 au Sinaï, dit tout de suite avec Noé, c'est l'alliance qui est sanctionnée par une loi qui va de toute façon permettre, et elle seule, de réguler la violence. La loi, vous n'y échapperez pas. Alors après, on dira, il y aura Saint Paul, la foi, la loi. La loi, il faut la garder. Voilà. Quelle est-elle, cette loi? Tu es un être violent, toi, l'être humain. Donc, on va t'autoriser la chasse. Tu pourras tuer les animaux, ce qui n'était pas dans les premiers chapitres. Un monde de douceur. Mais on constate quand même que au-dessous du niveau fondamental, qui est le niveau de la douceur, il y a un niveau violent tellement important qu'il faut... Il faut défouler les hommes. On va les envoyer à la chasse. Donc tu pourras verser le sang de l'animal. Mais le sang de l'être humain, tu ne le verseras pas. Évidemment, la loi n'a pas été obéie. Mais elle est quand même là, au tout début. La violence ne peut être conjuguée qu'en danser, conférer, comment on dit, contenu, que si on obéit à la loi. Tu ne tueras pas l'être humain. Or, obéir à la loi, c'est bien gentil, mais on l'oublie, la loi. Et du coup, la loi, elle va s'inscrire dans un geste de la vie quotidienne qui va devenir un geste rituel. Tu ne mangeras pas le sang. Il y a une loi très ancienne dans le judaïsme qui est une loi alimentaire qui remonte au récit qu'on fait remonter complètement aux origines, un deuxième degré de fondamental, comment régler la violence, qui remonte à Noé, ne pas manger le sang. Pourquoi? Pour se souvenir toujours que le sang, c'est la vie, et qu'on ne doit pas verser le sang du frère. C'est intéressant parce qu'on voit bien que le rite et tous ces rites qui vont envahir la loi juive après et qui parfois nous paraissent aberrants. Pourquoi manger tel animal et pas tel autre? Je ne vous donnerai pas d'explication, des fois il n'y en a pas. Mais peu importe. Tous ces rites qui ont tendance à devenir un carcan qui envahit la vie quotidienne, et Jésus luttera contre le carcan et contre l'utilisation à mauvais escient des rites. Mais l'idée du rite, elle est extraordinaire. L'idée du rite, elle est d'inscrire dans le quotidien indispensable de l'être humain, la nourriture, il faut bien manger, et comme on est des humains pas encore véganes, il faut manger de la viande, eh bien, on inscrit dans ce quotidien indispensable une loi alimentaire. Tu ne mangeras pas le sang. Donc, chaque fois que vous cuisinez de la viande, vous devez vous souvenir, je ne sais pas si vous le faites, mais vous devez vous souvenir, de toute façon, vous ne mangez pas de la viande cachère, mais si vous mangez de la viande cachère ou halal, vous devez vous souvenir que ça rappelle que tu ne dois pas verser le sang de l'autre humain. Ça va ? Donc, au fond, on voit bien dans ce récit déjà posé ce qui seront les fondamentaux ensuite de la vie et de la tradition juive, la loi qui se rappelle, qui s'inscrit par un rite dans la vie quotidienne. Ça va ? Et c'est pour ça qu'on dit toujours, j'en sais rien, on dit toujours le christianisme a gardé du judaïsme les lois morales et a laissé tomber les lois rituelles, les prescriptions rituelles, la circoncision, la nourriture cachère. Mais en même temps, dans la conception de la tradition juive telle que ce texte des origines, donc vraiment les textes fondamentaux, il dit c'est pas, ça ne peut pas être séparé, parce que le rite, c'est ce qui rappelle sans arrêt la loi. C'est ce qui inscrit la loi dans votre quotidien. Ça va, ça ? Et donc la violence, elle se régule par la loi rappelée dans le rite. Voilà. Bon, après, il y a des milliers de choses dans ces 11 premiers chapitres de la Genèse, il y a Babel, il y a etc. Je ne vous raconte pas tout, vous lirez, vous travaillerez, on peut y passer sa vie. Voilà. Alors, on va continuer le texte, nous. Et on va continuer à avancer dans l'histoire. Après Noé, après Babel, on entre dans quoi ? Alors, c'est le même schéma qui va se reproduire à la fin de la Genèse au but de l'Exode, qui est déjà là. C'est très étonnant, il y a des modèles dans la Bible qui se reproduisent à plusieurs reprises. Il y a l'alliance avec Dieu, et puis la violence humaine, et finalement la mort, qui envahissent le terrain et qui font douter de cette alliance, et qui font croire que l'alliance a disparu, que Dieu a abandonné l'affaire. D'ailleurs, il s'est posé la question au niveau du déluge. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je laisse tout disparaître. Ça va se reproduire à la fin du chapitre 11. Il y a un homme dont la famille est en train, le frère meurt, etc., les ancêtres, les pères d'Abraham, qui va s'en aller avec ce qui reste de sa famille, son fils, sa femme, son neveu, etc., et partir. Et à ce moment-là, au moment où on est dans... Et alors la femme d'Abraham est stérile, dans une espèce d'ambiance de délabrement, c'est sort de Samuel aussi, de décrépitude de l'humanité. L'humanité, ça va toujours vers la destruction. Eh bien, Dieu appelle. Voilà. Dieu relance le processus d'alliance. Dieu va choisir un homme, un peuple, etc., pour que l'espérance puisse rejaillir. Ça va, ça ? Et ça, c'est un schéma qui est aussi dans le Nouveau Testament, c'est un schéma biblique fondamental. Dieu appelle au moment où tout semble sombrer. Alors, à partir de là, on va rentrer dans la légende des pères. Ces grands récits de la Genèse autour des trois patriarches, et il y en aura même un quatrième, Abraham, Isaac, Jacob, qu'on appelle aussi Israël, il a des deux noms, et qui sera, plus que tout autre, l'ancêtre de toutes les tribus, puisque Israël sera le nom générique. À un moment donné, ça sera le nom de quelques-unes, et puis ensuite, ça sera le nom générique de tout le monde. Donc Jacob prend le nom d'Israël, un double nom, et puis il y aura Joseph, ces hommes qui sont placés dans une époque d'itinérance. Alors on vous dit, on a longtemps raconté dans les frises, la tradition protestante était très forte pour ça, et on les a tous utilisés, en tout cas quand j'étais jeune au catéchisme, les longues frises de l'histoire du salut qui commençaient à Abraham. Alors on le mettait au 19e siècle, parce qu'il y avait des nomades au 19e siècle, puis on continuait comme ça jusqu'à Jésus-Christ. Abraham au XIXe siècle, on n'a pas trace. Hein. Les grands nomades, les nomades qui vivaient de leurs troupeaux sur ces terres-là et qui évidemment changeaient de lieu, parce que quand on a mangé toute l'herbe dans un coin méditerranéen, donc où ça s'use vite, on passe dans un autre. Quand il y a une sécheresse, on descend en Égypte. Quand ça repleut au nord, on remonte au nord, parce que les Égyptiens ont toujours tendance à vous utiliser pour leur construction, à faire de vous des esclaves. Voilà, c'est des itinérants et il y en a toujours eu. En tout cas, on rappelle que Dieu a appelé un certain nombre de chefs de clan, de chefs de tribu, dont le nom remonte à une antiquité qu'on ne sait pas définir. À quel moment est-ce qu'on met en place ces récits qu'on appelle des récits patriarcaux, Abraham qui a pour fils Isaac, celui-là on n'en parle pas trop, mais après on va beaucoup parler de son fils Jacob Israël. Ouais. À quel moment ? Ici, le phénomène des relectures est essentiel. Il y a des vieux récits. Il y a des vieux récits très étonnants qui sont même, qui reparaissent même plusieurs fois. Le récit d'Abraham qui descend avec sa femme soit chez le pharaon en Égypte, soit chez un roi philistin un peu plus au sud, Abimélec, et qui, au fond, laisse sa femme convoiter par le pharaon, qui d'ailleurs s'en empare, ou par Abimélec qui avait commencé à le faire, au motif que il vaut mieux qu'on dise que c'est ma sœur, comme ça ils la prendront, mais au moins moi j'aurai la vie sauve. Si on dit que c'est ma femme, il me tue. C'est très très moche, hein. C'est très très moche. Abraham est très moche. Ça se reproduit trois fois ce récit. Deux fois pour Abraham, une fois pour Isaac. C'est un vieux récit. Et c'est là qu'on voit la force de ce phénomène de relecture qui n'efface pas le passé. On a, et on aura partout pour David encore plus, on a partout des vieux récits qui viennent des traditions orales, dont on ne sait pas où ils sont apparus dans la nuit des temps. Peut-être quelques siècles, peut-être beaucoup plus de siècles, on ne sait pas bien. Mais on voit que c'est des récits traditionnels, c'est clair, et qui changent d'un côté à l'autre, mais il y a toujours le même schéma. Eh bien, le courage qu'ils ont eu, c'est au moment même où on choisit comme père de tous pour faire l'unité, je vais vous dire pourquoi, Abraham, où on grandit la figure d'Abraham, et Dieu sait qu'elle a été grandie, Abraham le père des croyants, le père des trois religions monothéistes. Au moment même où on fait ça, on garde le récit qui dit qu'Abraham était vraiment moche. Moche. Il est prêt à... Et il laisse prendre sa femme par le pharaon au motif que lui, il veut vivre. Et en plus, il va la monnayer contre un peu de bien et de richesse parce que le pharaon va le combler de bien puisqu'il est le frère de la femme dont il s'est emparé. Donc c'est épouvantable ce qu'il fait. Mais on garde le récit. Voilà. On garde ce récit ancien parce que quelque chose de l'humanité et d'une humanité dont on vient... C'est dit dans ce récit. Vous aurez les mêmes histoires avec David. David est Bethsabée, il est adultère et il est criminel. Eh bien, on garde l'histoire de David. Eh oui, mais David, il a été épouvantable. Voilà. Mais Dieu passe par là, façon de dire que Dieu passe par une humanité qui est restée ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle est très, 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 très peu convenable et très, très peu admirable. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, on raconte cette histoire des grands ancêtres à un moment très particulier. On a des documents anciens, mais c'est vraiment au moment de l'exil et même du retour d'exil, donc très tard, à la fin du VIe siècle, qu'on va remettre en forme, rassembler tous ces vieux récits autour d'Abraham et raconter une histoire. Et pareil pour Isaac. Et pareil pour Jacob. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que lorsqu'on revient d'exil, il n'y en a que quelques-uns qui reviennent, lorsqu'on revient d'exil, c'est difficile de se réinstaller sur une terre abandonnée dont on a été chassé, hein, emmené quand même prisonnier, depuis 70 ans. Parce que pendant ce temps, il y a d'autres qui sont restés, qui sont installés, bah, évidemment, qui ont pris la place et qui ont dit « ils sont partis ». Une génération, c'est 30 ans. Au bout de deux générations et demie, la terre, elle est à moi. Voilà. On revient, et il faut faire avec cela. Il faut retrouver sa petite place. Il faut... Alors, eux aussi, ils ont gardé la mémoire du Dieu d'Israël, du Dieu. Ils l'ont gardé vaguement, ils l'ont mélangé avec d'autres, mais enfin, ils l'ont gardé. Ce sont bien les descendants de nos ancêtres d'il y a 70 ans. Mais comment s'accepter les uns les autres ? Eh bien, il y a un geste qui est extraordinaire. On va reprendre leur vieux récit à eux. Eux qui étaient sur place, ils avaient ces documents sur Abraham, ces vieux récits, ces traditions. On est des fils d'Abraham ou on est des fils d'Isaac. On va le reprendre et on va raconter qu'en fait, avant ça, Abraham est revenu avec nous de Babylonie. Eux, ils viennent d'arriver de Babylonie. Après l'exil, ils reviennent de Babylonie. Attendez. Hop, 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 hop. Regardez où elle est, la Babylonie. Vous avez vu le chemin qui fonce, ceux qui rentrent ? C'est le 3, le plus bas, la flèche le plus bas. Voilà. Bon. Eh bien, on va raconter qu'Abraham, en fait, il venait de Ur, encore plus bas, en Chaldée. Vous le voyez, Ur ? Et qu'il est revenu avec nous, et même à un moment, il s'est arrêté tout en haut à Haran. Il est même allé un peu plus haut et il revient avec nous. Comme ça, on fait d'Abraham, qui est en fait un patriarche local d'une tribu d'Israël sur place, à Hébron. On en fait aussi notre ancêtre à nous. Nous avons le même ancêtre. Comment ne pourrions-nous pas nous entendre et partager la terre ? C'était un argument de choc. Et donc, ils ont pu repartager la terre, se réinstaller, etc., dans une espèce de compromis en bâtissant un récit qui convient à tout le monde. Ça va ? C'est un peu compliqué, mais je crois que c'est important parce que ça dit bien comment la Bible se fait. Elle se fait parce qu'il faut, à un moment donné, au moment où on reprend avec force l'identité d'un peuple unique voulu par Dieu et on le réinstalle sur sa terre, il faut faire alliance avec ceux qui étaient déjà là avant et qui portaient la même promesse. Et comme ce n'est pas facile de faire alliance, eh ben on va dire « Ah mais oui, mais on a le même récit national, on a le même ancêtre. » Et c'est Abraham. Ça marche ? Voilà. Alors Abraham, il vient peut-être de très loin, on n'en sait rien. Mais en réalité, dans les récits des textes bibliques le remettent au fond en place en cette fin de VIe siècle pour le faire venir d'Aran, etc. Et on réinsère là-dedans, dans ce récit qu'on construit, on réinsère les vieux documents de l'histoire d'Abraham et de Sarah, des enfants d'Abraham, etc. Et on en profite pour dire à quel point on est proche d'un certain nombre de peuples voisins avec qui on est d'accord pour faire alliance parce que notre Dieu est le même. Et parmi ces peuples voisins, il y a les Ismaélites ou Arabes, ceux qui se réclament d'un patriarche Ismaël. Et ceux-là, on va raconter qu'ils sont, parce qu'ils le disent, ils sont bien aussi des enfants d'Abraham, via Ismaël. Et donc cette histoire d'Ismaël, le premier fils, d'Isaac, le second fils, elle est à la fois une histoire qui réunit des peuples, des gens qui ont des histoires un peu différentes, des patriarches un peu différents, mais en fait on a un point commun, et qui dit bien leurs différences, puisque nous on est des descendants d'Isaac, et Isaac quand même c'est lui que Dieu a choisi. On garde quand même une petite supériorité, il ne faut quand même pas exagérer. Mais il y a cette reconnaissance que Dieu a aussi béni Ismaël, qu'il a béni sa mère Agar, et que même si Ismaël est le père de tribus insupportables, un contre tous, enfin c'est des tribus volantes qui attaquent sans arrêt, c'est quand même des cousins germains. Ça va ? Et nous avons le même ancêtre, et nous avons quelque part le même Dieu. Ça, on l'oublie trop. La Genèse, les récits d'Abraham mettent ça en place. Et c'était courageux. C'était une façon d'ouvrir. Mais le retour d'exil a été à la fois un retour très identitaire et très courageux. Notamment la tradition des prêtres a été très courageuse sur l'universalité des liens entre au moins les enfants d'Abraham. Voilà. Il y a des tas de peuples dont on est parents et avec qui normalement on devrait s'entendre. Bon, la suite n'a pas dit la même chose. C'est quand même important de le garder en mémoire. Voilà. Donc, ces histoires de patriarches, c'est à la fois des documents très anciens et une reprise d'un récit qu'on reconstruit largement au retour d'exil pour bien s'entendre avec tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, se réclament de ses ancêtres, Abraham au sud à Hébron, Jacob Israël plus au nord à Bethel et à Sichem, et dire, mais en fait, tout ça, c'est la même famille. D'ailleurs, Jacob est le petit-fils d'Abraham. Pas du tout sûr que Jacob ait jamais été le petit-fils d'Abraham. On s'en moque. Jacob, c'est un patriarche qui domine toute une partie de la bande du milieu, la Sichem Bethel, dont les descendants se réclament de lui, dont on a gardé le nom et on l'a emporté en exil Israël, c'est notre père. Mais au-dessus, il y a Abraham, qui est en plus le père d'un monde plus vaste. Voilà. Un essai pour vous dire comment les légendes des patriarches, c'est des légendes, c'est plus des mythes. Et vous savez que la différence, c'est que les mythes, c'est des récits inventés d'origine pour dire les fondamentaux, tandis que les légendes, c'est des récits aussi larges, sur lesquels on brode largement, des récits romancés, mais à partir d'un fait concret, d'un fait précis. Une légende, ça part d'un nom. On a le nom du grand ancêtre Abraham. Et bien, le nom, il n'est pas de nulle part, il a existé dans l'histoire. On a des sanctuaires. On a un sanctuaire à Hébron. On a un sanctuaire à Sichem, où depuis la nuit des temps, on offre et on vient prier le Dieu d'Israël. Et c'est à partir de là que les légendes se bâtissent. Ça va ? Voilà. Donc la légende, c'est ce qu'on raconte, largement romancé, mais qui n'est pas, qui a toujours un lien avec un élément de l'histoire, à la différence des... Bon, ces récits, ils vont presque jusqu'à la fin de la Genèse, et en fait, pendant très longtemps, la Genèse s'est arrêtée, au fond, à l'histoire de Jacob. Mais, à un moment donné, on a rajouté l'histoire de Joseph. Et pour de bonnes raisons, c'est qu'à un moment donné, les liens avec l'Égypte, où il y avait une forte diaspora, donc une forte émigration juive, ont été excellents. Et c'est probablement aussi, et déjà avant, ce retour d'exil, et on a voulu dire, au fond, qu'on avait des liens très forts avec cette diaspora d'Égypte. D'ailleurs, eux, ce sont des gens qui se réclament du patriarche Joseph, descendu en Égypte, etc., etc. Ça va ? Donc on vient ajouter cette étonnante histoire de Joseph en Égypte à la fin de la Genèse, et qui en même temps a un sens extraordinaire, parce que la Genèse, ça commence, vous connaissez tous, avec Caïn et Abel. Il y a deux frères, il y en a un qui est jaloux et qui tue l'autre, au motif que Dieu l'aime plus, mais au motif qu'il a plus. L'autre a toujours plus, donc on a toujours une bonne raison de tuer le frère. Et la Genèse, ça se termine sur une histoire de frères aussi, sur une histoire de frères. Les 11 frères de Joseph, qui, à l'exception d'un ou deux qui ont essayé de le sauver, ont voulu le tuer. Ils ont voulu le jeter dans un puits, puis il y en a un qui dit « Non, non, on ne va pas le tuer comme ça, on va raconter à notre père qu'il est mort et on va le vendre en Égypte. » Et il y a tout un processus ensuite très long, quand les frères affamés viennent pleurer en Égypte, de réconciliation, où Joseph va devoir prendre sur lui, et il met du temps, pour pardonner à ses frères. Et ça se termine par une réconciliation. Donc vous voyez la Genèse qui décrit comment, au fond, la violence initiale, elle va être aussi, un jour, peut-être, jugulée, contenue par la réconciliation difficile, douloureuse pour tout le monde, parce qu'ils ont peur jusqu'au bout, et lui, il a envie vraiment de les faire souffrir jusqu'au bout, des frères. Et en ce sens, c'est important, là aussi, de lire tout le texte. Parce que je dis, sinon, si on rate cet anneau, on a raté quelque chose. On pose dans ce livre des origines que oui, c'est possible, la réconciliation des frères. Ça va vous coûter cher, monsieur, dame, mais c'est possible. Voilà. Bon, après, vous lisez le texte, vous pouvez passer une bonne partie de votre existence à travailler la Genèse. J'en dirai pas plus. Moi, j'avance dans le temps, parce qu'une fois qu'on a été en Égypte, heureux, prospère, nourri, d'autres sont repartis dans leur région de promise par Dieu, peut-être, je ne sais pas, mais enfin, sont repartis avec leurs troupeaux. De toute façon, c'était des itinérants. Il y en a quelques-uns qui se sont fixés en Égypte. Mais en Égypte, ils venaient surtout pour refaire le plein de vivre, quelque temps se requinquer, on va dire, parce que c'était riche, puis on repartait paître les troupeaux plus haut. Mais, voilà, il y a un moment donné où cette population, semble-t-il, on n'est toujours pas dans l'histoire, hein, on est toujours dans la légende. Il y a des éléments. On s'avance vers l'histoire, c'est-à-dire vers les moments où l'écriture va apparaître, mais ce n'est pas avant l'an 1000. Il y a l'écriture égyptienne qui va dire des choses. On s'avance vers l'histoire, mais on est toujours dans un récit refait, relu après coup, à partir de traditions, surtout orales. Ça va ? Et où on n'avait rien d'écrit. Eh bien, il y a un pharaon qui ne supporte plus. C'est dangereux. Les immigrés, c'est dangereux. On va faire disparaître les garçons et les filles, on les marie à des Égyptiens. Comme ça, l'affaire est close. Voilà. La solution est simple. On garde les filles, on les marie et on tue les garçons. Voilà. Et vous savez l'histoire. Ça commence comme ça. Il y a bien des femmes. Alors, le salut vient par les femmes. Oui, oui, Sarah. Elle est vilaine, Sarah, mais quand même, elle défend son biftec. Des femmes, des sages-femmes, qui essayent de subtiliser des garçons en racontant au contremaître et à la police du pharaon. Elles ont accouché tellement vite qu'on n'est pas arrivé avant. Elles ont accouché avant nous et alors les enfants, on ne sait pas où ils sont. Voilà, avant qu'on arrive, disent les sages-femmes. Bon, racontent des salades, mais ça marche puisqu'il y a un petit Moïse comme ça qui est sauvé, qui est mis dans un... Alors, il y a des légendes aussi à côté. Il y a la légende du roi, un peu légendaire, un peu... Oui, il a existé, mais enfin, il a grossi il a grossi sa propre légende en se disant descendant d'une déesse. Ça marchait très bien. Du roi légendaire assyrien. Non, du roi assyrien, qui a fait connaître sa propre légende, Sargon II, qui, lui aussi, a été sauvé dans un panier dans les eaux parce qu'il était le fils d'une déesse qu'un homme a récupéré, etc. Bon. Il y a des exemples. On reprend une histoire de ce genre-là et on fait un Moïse sauvé des eaux. Un Moïse qui va de lui-même d'abord. Alors, il est à moitié égyptien, le Moïse, à moitié hébreu, comme on dit à l'époque. C'est juste ce moment-là où il s'appelle des Hébreux. Après, ils changeront de nom. C'est un nom local donné par les Égyptiens. À moitié, il joue dans les deux cours, puisque, effectivement, c'est le fils. Et il a été élevé par une femme des Hébreux à qui la fille de Pharaon l'a confié, mais il est quand même élevé à la cour du roi d'Égypte. Il joue sur les deux tableaux. Mais à un moment, Moïse se met en colère parce qu'on maltraite les gens de son peuple. Donc, avant même que Dieu intervienne, il y a un homme qui se dresse contre l'injustice. C'est intéressant. C'est seulement à partir du moment où Moïse... Qui s'est dressé contre l'injustice faite aux siens, contre la violence, et qui lui-même a été violent, bien sûr. Il a tué l'Égyptien. Doit s'enfuir, que Dieu intervient. Dieu se souvint, Dieu entendit les cris de son peuple. Il a mis le temps à entendre. Ça fait un moment qu'ils étaient tués, les enfants des Hébreux. À un moment donné, Dieu se souvient, et Dieu va prendre en main la chose en envoyant Moïse. Et vous connaissez la suite, il va y avoir un peuple... qu'on arrache difficilement aux griffes du pharaon, mais qui finalement va partir une nuit et puis traverser la mer et marcher dans le désert pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'historique là derrière? C'est tout le cours de Thomas Romer à... Où est-ce qu'il est? Au Collège de France. Bon, il y a des tas de livres. Je vous dis un petit peu l'état rapidement, l'état des lieux derrière, et qui je crois le restera. Le cadre est à peu près vraisemblable. Il y a des éléments sur lesquels la légende a pu s'appuyer. Le cadre vraisemblable, c'est qu'il y a toujours eu des sémites, ces populations qui venaient un peu du nord et qui étaient surtout dans l'entre-deux, qui sont descendues en Égypte. D'ailleurs, au XVIIe siècle, il y a eu des dynasties égyptiennes appelées les Hyksos, qui étaient des dynasties sémites, qui ont fini par être chassés dehors, mais qui ont bien tenu le coup pendant 2 ou 3 siècles. Voilà. Ensuite, dans les tombes égyptiennes, au XIXe siècle, par exemple, ces tombes splendides, on repère un certain nombre de gens qui viennent offrir, surtout ils apportent souvent des offrandes, qui ont un nez et une barbe qui caractérisent une ethnie. Voilà. Un nez, une barbe, parfois des vêtements. Des vêtements qui caractérisent une ethnie, une peau plus claire que d'autres, qui sont clairement plutôt des Africains, des gens du Sud, des Nubiens. Et donc, il y a des sémites présents dans ces tombes égyptiennes, et il y en a même dans la construction de tombes au XVe siècle, le fait que beaucoup travaillent et travaillent dur à construire ces tombes. Il y a aussi, comme tout à fait vraisemblable, le fait que les grands monuments magnifiques de l'Égypte, les monuments des pharaons, les tombeaux des rois, les pyramides d'abord, mais ça c'est plus vieux, les tombeaux des rois ensuite, ils ne se sont pas faits avec des grues et les engins qui ont servi à reconstruire Notre-Dame, même si la reconstruction est magnifique. ils se sont faits avec des gens qui roulaient les pierres sur des troncs. Hein. Et tout se faisait à force, à sueur et à sang d'hommes, et de milliers d'hommes. Hein. Voilà. Et si, je ne sais pas s'ils avaient déjà inventé la grue, mais certainement, eh ben, la grue, c'était la cage d'écureuil en bas, avec des gens qui, toute la journée, pédalaient dedans, hein, pour monter difficilement les pierres. Donc ça s'est fait avec des centaines, milliers, dizaines de milliers d'hommes, dont un grand nombre sont morts en route. Ça s'est fait avec de la sueur et du sang, c'est évident. Donc les Égyptiens, ils avaient tout le temps besoin, il fallait qu'ils protègent un peu leurs paysans, parce que les paysans, ils les nourrissaient quand même, il fallait cultiver. Donc ils avaient sans cesse besoin d'esclaves, de gens à faire travailler. Or, on voit bien qu'il y a toujours eu, dans ces eaux-là, en Égypte, entre le XVIIe et le Xe siècle, des nomades qui descendaient pour faire paître leurs troupeaux, qui descendaient pour essayer de piller un peu. L'Égypte était riche, donc on faisait un petit tour, on ramassait, on fichait le camp, pour rejoindre des paysans, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de révoltes de paysans en Égypte. Les paysans étaient taxés très fort, ça coûtait cher aussi, les constructions. Et donc il y a eu beaucoup de révoltes de paysans sous les pharaons. Donc on sait que certains rejoignaient des bandes de paysans révoltés, et ces bandes, on les appelait des apirous ou des chassous, ça dépend. Mais apirous, certains considèrent que c'est le vieux nom des Hébreux. Des bandes, un mélange de paysans révoltés, de nomades venus du nord, de gens qui venaient faire un peu de pillage, et que quand les Égyptiens pouvaient mettre la main dessus, ils réduisaient en esclavage et à coups de fouet, faisaient travailler dans leurs grands monuments. Tout ça, c'est plus que des vraisemblances, c'est attesté quand même par des inscriptions, par des dessins, etc. Rien de précis. Y a-t-il eu des révoltes ? Oui, il y en a eu des tas. Y a-t-il eu des gens qui se sont enfouis ? Oui, il y en a eu des tas. Alors, il y en a même un qui s'appelait Béa, qui était un personnage assez bien placé à la cour, qui a tenté un coup d'État avec la mère du Pharaon contre le Pharaon, et à l'aide justement de ces populations révoltées. Et alors, on a quelque part en Allemagne, à Hildesheim, des morceaux de la tombe avec dessus le nom, et il s'appelle quelque chose qui ressemble à Moïse. Alors, la conservatrice du musée a fini par dire aux spécialistes de l'Égypte ancienne, arrêtez d'en parler parce que nous, on croule sous le public qui vient voir Moïse. C'est pas Moïse. Mais il y a eu des histoires comme ça, il y a des générations. Alors, en fait, celui-là, il a été mis à mort rapidement. Hein. Donc, c'est pas Moïse. Mais il y a des histoires comme ça. Voilà. Il y a donc toute une série de vraisemblances. Et la plus grande des vraisemblances, qui est troublante, c'est le nom même de Moïse, qui est aussi le nom de ce haut fonctionnaire révolté, qui est un nom égyptien. Moïse, c'est le nom que vous avez dans Toutmès, Toutmosis, MSS, les pharaons égyptiens. Toutmosis, MSS, c'est fils de, fils du dieu Thoth. Ramsès, fils du dieu Ra, le dieu soleil, etc. Bon, ça veut dire fils de, donc Moïse s'appellerait fils de. En tout cas, Moïse a un nom égyptien. Si vous voulez raconter l'histoire d'un ancêtre tutélaire qui est au fond, qui se confond même avec le peuple recevant l'alliance de Dieu, avec la loi qui est faite la colonne vertébrale de la vie du peuple. Si vous l'inventez, est-ce que vous lui donnez un nom égyptien ? C'est pas sûr. Voilà. C'est ça qui dit, il y a quand même peut-être eu un gars comme ça, parce que le nom est troublant. C'est tout. Personne ne vous dira qu'on a des éléments suffisants pour rebâtir une histoire de Moïse avec des gens qui sont partis. Il y en a eu des tas qui ont essayé de s'enfuir. Il y en a eu des tas. En gros, où ils mouraient dans le désert, où ils étaient rattrapés. Voilà. Et qui auraient traversé la mer, poursuivis par les chars des pharaons, les chars et les cavaliers. Alors ça, pipeau. Parce que les chars et les cavaliers du pharaon, quand ils se déplaçaient, c'était noté dans les annales égyptiennes. Et vous pensez bien qu'on les a fouiller les annales égyptiennes pour trouver le pharaon qui aurait poursuivi un groupe avec ses chars et ses cavaliers. Il n'y en a pas. Voilà. Donc, plein de vraisemblances, en tout cas plein d'éléments qui ont permis d'appuyer un récit qui voulait dire et qui disait avec force, nous étions esclaves et grâce à un chef charismatique et à Dieu derrière qui est allé le chercher, ce Dieu qui est notre Dieu, qui est le Dieu unique, etc., nous avons traversé la mer, nous avons traversé la mort et nous avons marché 40 ans dans le désert, recevant sa loi pour marcher vers la terre promise. Ça va ? Et il a fait ce Dieu alliance avec nous. Et il y a des choses très intéressantes, c'est qu'on voit que ça, ça a été écrit, en tout cas dans une première couche peut-être, par des gens qui avaient été déportés ou qui avaient vu la déportation en Assyrie. La déportation de ceux du Nord en Assyrie. Parce que le retour dans le désert, eh bien, la marche dans le désert, elle décrit un désert qui n'est pas le désert du Sinaï, mais qui est clairement, par le vocabulaire, par les plantes qu'on rencontre, par la façon dont le puits est formé, le désert assyrien. Donc on se dit, c'est eux qui ont écrit l'histoire, qui était pour eux une histoire d'espérance. Eux, ils n'étaient ni libérés, ni prêts à rentrer. Ils ont peut-être écrit une première histoire d'espérance avec ces éléments de vieux récits qu'ils avaient récupérés, parce que Moïse, c'est effectivement des traditions du Nord. Et ils l'ont mis en forme. Et c'est devenu finalement l'acte de naissance, au fond, d'un peuple que Dieu a libéré de la servitude pour le faire marcher à travers le désert dans un exode vers la terre qu'il lui a promis. Ça va ? Voilà, donc ça s'est probablement commencé à s'écrire assez tôt, probablement au 9e, 8e, au 8e siècle, dans ces pays du Nord. Et le récit ancien, qui n'est pas celui de l'exode, qui est celui du Deutéronome, en tout cas du cœur du Deutéronome, avec surtout les lois, est un récit qui existait dans le royaume du Nord et qui a été emmené au Sud par ceux qui ont fui la Syrie. Voilà. Donc c'est des récits qui viennent du Nord, de ce royaume dont je vais vous parler. Voilà, voilà ce qu'on peut dire de l'histoire de Moïse. Après, l'histoire est magnifique, la traverse. C'est très intéressant. Si vous lisez Exode 12, ça ne vous raconte pas, ça ne vous raconte pas la nuit de veille et le départ en vitesse. C'est d'abord des prescriptions liturgiques. Ça commence toujours par ça. Chaque année, tu te souviendras et voilà ce que tu feras. Et à partir de là, on commence à raconter l'histoire. Ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui. On raconte l'histoire de la Pâque lors d'un repas où l'enfant dit pourquoi ces herbes amères, pourquoi ceci, pourquoi cela. Eh bien, parce que tu dois te souvenir que... D'accord. Là, au fond, c'est le rite qui est mélangé, comment dire, le rite qui fait surgir l'histoire, qui l'accompagne, et c'est le récit, au fond, qui donne un sens à ce rite. Et c'est de ça dont on vit, parce qu'on continue à en vivre. Chaque année, tu te considéreras comme sorti d'Égypte, comme sorti de la maison d'esclavage et libéré par Dieu. Ça va ? Voilà, c'est quand même difficile à comprendre, mais je crois que ça éclaire un certain nombre d'incohérences, sinon, qui sont dans le texte. Alors, d'abord, est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Parce que c'est un peu compliqué, tout ce que je vous ai raconté. Non ? Ça va, vous survivez ? À peu près ? Oui ? Et tout de suite ? Dès qu'il y a deux hommes, il y en a un qui tue l'autre ? Ben, l'homme n'est pas parfait. C'est ça le constat. Dieu est parfait, mais la créature, elle est limitée. Et il y a cette faille, alors, l'histoire du péché originel, elle n'est pas idiote, parce que j'en ai dit du mal, moi. Enfin, je l'ai tournée en ridicule en disant le péché n'est pas premier, il y a d'abord la bénédiction. Mais oublier le péché constitutif présent dans l'humanité dès le début, ça, c'est aussi une grosse bêtise. Et c'est très présent dans les spiritualités actuelles. Tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil. Et on est en contact avec la divinité, il n'y a qu'à s'aimer très fort. Eh bien non, non, on s'entretue quand on s'aime très fort. Voilà. Le péché, ça existe, et ce n'est pas moi qui dirais le contraire. Et c'est là, pas originel, c'est la bénédiction qui est originelle. Mais tout de suite, ça commence Caïn et Abel. Ils s'entretuent. Et la Bible ne dit jamais d'où vient le mal. La bête tapie à l'entrée de ton cœur. La jalousie, le fait qu'il y a l'autre, et que l'autre, j'ai envie d'être mieux aimé que lui, être préféré. Je n'explique pas, bien sûr. Alors après, on va l'appeler le diable. le livre de la sagesse, 1er siècle avant Jésus-Christ, quand on a construit, on a commencé à construire à cause des, et de l'influence des civilisations environnantes, des légions d'anges qui sont bons ou mauvais. Une fois que vous avez construit des légions d'anges qui sont bons ou mauvais, vous avez trouvé la solution. C'est les anges du mal. Et la tradition biblique continue à dire que ces anges du mal, au début, c'était des bons, mais qu'ils se sont cassés la figure. Il n'y a pas de chute dans la Genèse. L'homme ne tombe jamais de nulle part. Moi, quand on me raconte la chute dans la Genèse, je dis, mais d'où est-ce qu'ils sont tombés? Ils sont tombés du pommier? Ils ne sont pas tombés. Il n'y a pas de chute. Il y a une expulsion. Ils sont expulsés loin de Dieu parce qu'ils ont cassé la confiance. Donc, ils se sont expulsés d'eux-mêmes de la zone de confiance. Mais il n'y a pas de chute. La chute, c'est des récits beaucoup plus tardifs. Quand on s'est mis à créer entre Dieu et les hommes des légions d'anges, tous les anges étaient bons parce que Dieu est bon et veut le bien, mais il y en a un certain nombre qui sont tombés. Alors après, on raconte que c'est les filles des hommes qui étaient trop belles en bas et qui ont séduit les anges. Après, c'est toujours les femmes qui ont tort. Mais voilà, ils sont tombés. Là, il y a de la chute. Elle est beaucoup plus tardive. Et là, tout d'un coup, on va trouver une origine du mal. Ben, c'est ces anges mauvais qui se mettent en travers. C'est une façon d'essayer de trouver. Mais ce que la Bible maintient, c'est qu'il n'y a pas de Dieu du mal et Dieu est un et lui, il veut le bien. Et que les autres, ce sont des créatures. Je ne peux pas vous en dire plus parce que j'en sais pas plus. Attendez, il y a une question au fond qui est d'un peu avant. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Ah ben, la continuité, c'est d'avoir gardé les traditions. C'est le savoir d'avoir. Et Dieu sait que ça a été, qu'il y a eu de la persécution et que les chrétiens ne s'en sont pas privés. Mais c'est d'avoir de mère en fils ou de père en fils. Là, on ne sait pas bien. D'abord, c'est de père en fils. Après, c'est de mère en fils. Garder les traditions et peut-être garder les rites qui sont les gardiens de la tradition. Moi, je n'aime pas les rites parce que je suis un peu protestante dans ma façon de vivre, mais il est quand même clair que ce qui garde la tradition et ce qui garde peut-être la loi, c'est le rite. Et que pas transmettre les rites, c'est une question que je me pose tout le temps. Parce que pas transmettre les rites, c'est risquer de perdre la loi derrière et de perdre la tradition derrière et de perdre le nom de Dieu derrière. Voilà. Bon, ça se discute, hein, mais c'est sûr que c'est ça qui a fait la continuité. Alors, vous avez une question? Est-ce que la notion de diable existe dans l'Ancien Testament? Très peu. D'abord, le diabolos, c'est grec. Dans l'Ancien Testament, ce qu'il existe, c'est le Satan, qui veut dire l'accusateur, qui est un membre de la cour céleste. Et en fait, ce n'est pas à Dieu qu'il en veut. Il est dans l'histoire de Job, qui d'ailleurs n'est pas un juif. Job, c'est un homme d'une autre... Non. Et il est dans la cour céleste, le Satan, et il vient dire à Dieu... lui fait pas confiance. Et c'est pas un bon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'homme qui essaye de détourner de Dieu, le Satan. Il essaye de détourner l'homme de Dieu, de dire à Dieu, tu peux pas faire confiance aux hommes parce que les hommes te font pas confiance. Voilà. C'est l'accusateur. Mais c'est pas un Dieu. C'est un membre de la cour céleste qui se balade et qui a de mauvaises idées. Comment ? Oui. Voilà. Eh bien, oui, mais le diable demande à Dieu. La question, elle est, qui c'est ce diable? Alors, il n'y a pas de diable. Il y a un Satan qui est un membre de la cour céleste et qui, effectivement, veut casser le lien de confiance entre Dieu et l'homme. Ah ben, il faut demander à Dieu pourquoi il a permis ça. C'est pas moi. Parce que c'est comme ça. Parce que l'humanité est libre et parce que de fait, alors le livre de Job n'est pas fait pour se poser la question est-ce que Dieu a permis. Pas comme ça en tout cas. Le livre de Job est fait pour montrer qu'il n'y a pas de rétribution immédiate. Que Dieu, que ce, c'est à l'envers. Que ceux qui sont riches et bien portants ne sont pas des bénis de Dieu et ne sont pas bons pour cela. C'est très à la mode aujourd'hui. Si vous êtes riche et bien portant, vous êtes bénis de Dieu. Ça se dit beaucoup quand même dans certains milieux. Bon. C'est pour casser ça. Et si vous êtes malheureux et mal portant et détesté, c'est que vous êtes maudit de Dieu. Le livre de Job veut casser cette idée-là, ce qu'on appelle la rétribution, et que Jésus continuera à casser. L'aveugle né, Jésus est obligé de dire « Ni lui ni ses parents n'ont péché ». Ce n'est pas une punition. Voilà. C'est ça le livre de Job. C'est casser l'idée d'un Dieu qui bénit par des biens matériels et immédiatement, et d'un lien immédiat entre l'agir moral et la réussite matérielle. Ce qui revient en force. Et le livre de Job casse ça. Après, la mise en scène, l'accusateur dans la cour céleste, on voit bien que c'est une façon de présenter les choses, avec des récits anciens là aussi. Ça va ? Alors, est-ce qu'il y avait encore quelque chose ou est-ce que je peux... Attendez, oui, encore 5 minutes. Redémarrer avant de vous laisser tranquille. Je voudrais quand même qu'on arrive... Oui ? Moi, je n'ai pas dit ça. Alors, écoutez, il y a quand même un exemple. Le judaïsme a toujours transmis. Je n'ai jamais posé ce genre de questions. Voilà. Et en fait, on croit que les enfants se posent ce genre de questions. En tout cas, les enfants, c'est bon de leur apprendre la légende. C'est bon de leur apprendre la légende. Parce que, à mon avis, le risque le plus grand, c'est l'ignorance. Quand vous n'avez rien pour construire, là, c'est embêtant. Donc, il faut commencer par apprendre la légende. On apprend la légende, qu'est-ce que vous voulez ? Parce que l'humanité, ça transmet. Ça transmet des récits, ça transmet des légendes. Et vous lisez à vos enfants, à vos petits-enfants, des tas de récits, des tas de légendes. Eh bien, on leur transmet aussi la Bible, et puis après, on réfléchit ensemble dessus. Et aux jeunes catéchumènes, pareil. Mais... ce qui compte, c'est de dire, au fond, pourquoi cette légende est conservée aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire à travers les siècles et à travers les âges ? Moi, ça ne me gêne pas qu'on raconte. Moi, j'adore raconter. Hein. Voilà. Et je raconte à mes petits-enfants, même s'ils n'ont aucune foi chrétienne, Jonas, Jésus, machin, truc. Il y a des histoires qu'il faut connaître. Mais bien sûr qu'il faut connaître l'histoire. La culture, c'est essentiel. D'abord, sinon, on ne comprend rien au monde qui nous entoure. Et ensuite, on n'a pas de matériaux pour réfléchir. Pour réfléchir sur des matériaux transmis. Alors, il y a notre expérience. Notre expérience, elle est limitée. On réfléchit sur des matériaux et ça fait partie des matériaux qu'on transmet. Moi, ça ne me trouble pas beaucoup, ça. Alors, on entre en terre promise avant la pause. Vous voulez ? Quand même, oui ? J'ai pas entendu. J'ai dit, on entre en terre promise avant la pause. Pas longtemps. Non, cette image quand même, je reste sur l'image de l'Exode. Cette image du désert, quand même, elle occupe à peu près tout le livre de l'Exode, du chapitre 14 à la fin 48. Elle occupe tout le Deutéronome, de 1 à 33, que je ne dise pas de bêtises, oui, 34, de 1 à 34, voilà. Elle est massivement présente dans ce qui fait le cœur de la loi d'Israël. C'est pour ça que je disais la terre promise, c'est bien gentil. Mais ce qui est quand même transmis d'abord en Israël, c'est la Torah, c'est la loi. C'est la loi, et à un moment donné, on le dira en janvier, lorsque le judaïsme n'a plus de terre, la Torah va devenir la terre portative. La terre, c'est la loi. Ouais. D'accord. Or, où est-ce qu'on est dans ces textes ? On est dans le désert en Exode. On marche, comme peuple de Dieu, vers une terre que Dieu nous a promise. Mais on marche, on est en Exode. Et la grande figure, c'est ça, parce qu'on a échappé à l'esclavage. Et ça sera la grande figure du retour d'exil. C'est au retour d'exil qu'on va surtout lire cet exode. On revient à nouveau, on est sauvé. Alors d'un esclavage qui n'était pas le même, qui n'était pas terrible, mais quand même, on est sauvé de la soumission à d'autres. on redevient quelque part libre et en marche vers la terre que Dieu va nous donner. Et c'est ça la Torah. Or, vous remarquez à la fin du Deutéronome que Moïse, alors il faut trouver une explication, là aussi on va en trouver une explication, Moïse va être puni parce qu'il fait partie de la première génération qui n'a pas fait confiance. Bon, que Moïse soit puni, je veux bien, enfin, peu importe. Moïse n'entre pas dans la terre promise. Ça, c'est fascinant. C'est fascinant. Parce que Moïse, c'est quand même beaucoup plus qu'Abraham, beaucoup plus même que Jacob, Israël. C'est celui qui incarne le peuple. Le peuple à qui Dieu a fait alliance, à qui Dieu a donné sa loi. Notre terre, c'est la loi de Moïse. C'est Moïse qui est censé avoir écrit la Torah. Or, Moïse n'entre pas dans la terre. Il regarde la terre du haut du mont Nebo. Puis Moïse va mourir, mais on n'a jamais trouvé son tombeau. C'est Dieu qui l'a enterré. Il est rentré dans le cercle de Dieu, on va dire, dans l'infini de Dieu, on ne sait pas. Mais ça, c'est, je trouve que c'est magistral comme image. À la fin de la Torah, Moïse n'entre pas dans la terre. Bon, ils y sont quand même entrés. Ils y sont quand même entrés historiquement, on le sait. Ils y sont entrés, alors là je fais un détour par l'histoire. On n'est pas encore dans l'histoire, mais comme on a des écrits des Égyptiens, parce que les Égyptiens, eux, ils ont l'écriture depuis 3000 ans. Là, à l'époque, ça ne fait pas 3000 ans, ça fait que 2000, mais ça fait un bon bout quand même. On a des écrits du côté des Akkadiens, Sumer, Akkadie. On sait des choses sur cette époque. On sait des choses sur cette époque, même si les Hébreux qui vont devenir les enfants d'Israël, les Israélites, n'ont rien écrit. Alors, ce qu'on sait sur cette époque, c'est d'abord que il existait un groupe qui s'appelait Israël. Et ce groupe qui s'appelait Israël, vous en avez une première attestation sur une stèle égyptienne, la stèle du pharaon Merimpta, qu'on date de, alors, suivant les archéologues, 1140 ou 1230, peu importe, parce qu'on n'est pas à 100 ans près. Hein. Voilà, qu'on date de la fin du 13e siècle, siècle avant, ou milieu du 12e siècle avant, peut-être. Bon. En tout cas, sur cette stèle magnifique du pharaon Merimpta, vous avez le nom d'Israël, sous la forme « Israël est vaincu et a perdu sa semence ». Ça veut dire « a été éradiqué », en partie au moins. Voilà. Donc, Israël existe. Ben oui, mais c'est très important, ça. On a... en Égypte, sous la stèle d'un pharaon, et pour immortaliser le pharaon, le fait qu'il a vaincu un petit groupe, entre autres, hein, il n'y a pas qu'Israël, il y a des listes entières de peuples qui ont été, ou de petits peuples, c'est des tribus, qui ont été battus par le pharaon, dont Israël. Donc, il y avait un groupe qui commençait à s'appeler comme ça. Voilà. Le groupe qui commençait à s'appeler comme ça, on est à la jointure, disent les archéologues, entre la fin de l'âge du bronze et le début de l'âge du fer. On est à un moment où les Égyptiens, même s'ils ont battu Israël, ont affaire à des révoltes avec les gens qui sont un peu plus au nord, là justement, ces groupes nomades. Les rois cananéens sont affaiblis, parce que les groupes nomades et les groupes un petit peu révoltés affaiblissent tout le monde. Et les petites villes cananéennes qui payaient l'impôt à l'Égypte sont en train de tomber dans la pauvreté, l'indigence et même la ruine. Voilà. On sait ça. Et donc, on peut comprendre que les groupes qui avaient fui l'Égypte, d'autres peut-être qui étaient par là, se soient installés beaucoup plus aisément à cette époque, vers le 11e siècle, 12e, 11e siècle, peut-être 12e, dans ce pays dont les premiers propriétaires, les Cananéens, étaient en train de tomber dans la pauvreté et la déshérence. Voilà. Plus de famille royale, plus rien, etc. On peut très bien le comprendre, et il semble que, un peu comme les barbares pour l'Empire romain, ils ne soient pas rentrés par la force, ils n'en avaient pas besoin, il y a peut-être quelques coups de main, quelques pillages. Mais en gros, ils se sont installés là où les autres n'étaient plus, en s'appropriant les terres et en s'installant. Et en passant progressivement de l'état nomade à l'état sédentaire. Ça va ? Donc l'exode se termine comme ça, on s'installe. Alors en réalité, l'exode se termine par une arrivée au nord, et ce sont plutôt les groupes du nord qui ont gardé le souvenir de l'exode que des groupes du sud qui peut-être étaient plutôt déjà là. Enfin, c'est compliqué. Mais il y a une installation de clans, de tribus qui commencent à sédentariser, qui se reconnaissent entre eux comme étant des fils d'Israël. Ça va ? Des Israélites. Donc il y a bien un patriarche quelque part, là, on ne sait pas trop, mais on voit bien qu'il s'appelle comme ça. Bon. La relecture, beaucoup plus tardive, en fait la terre que Dieu nous a donnée quand nous sommes sortis du désert, je l'ai dit, une épopée nationale avec Josué, conquistador, Josué, qui vient... et qui vient prendre la terre. En fait, c'est liturgique, on tourne autour de Jéricho et les murailles tombent, on s'installe dans une ruine. Enfin, on prend la terre et on s'installe. Voilà. Et d'ailleurs, dans le livre de Josué, au chapitre 24, il y a une décision à prendre. Est-ce qu'on se réunit tous ceux qui veulent se réunir avec nous autour de Dieu d'Israël, ceux qui veulent se tourner vers d'autres dieux, quittez. Voilà. Ceux qui vont être avec nous, c'est ceux qui... Donc, on se regroupe autour d'un dieu qui va devenir le dieu d'Israël. Ça marche ? Donc, c'est l'installation qui était dans le livre des juges. Il n'y a pas de royauté. Dans les empires environnants, il y a des rois, pas des empereurs, mais enfin des pharaons en Égypte, des rois à Ninive et ailleurs. Là, sur place, visiblement, il y a des tribus, et des tribus qui font appel, quand ça va mal, quand il y a des problèmes, à des juges, c'est-à-dire à des gens qui règlent les différends et qui érige un peu des lois, et il y a des juges femmes. Et une juge très célèbre, c'est Déborah, qui, au chapitre 5 du livre des juges, dans un des plus anciens textes bibliques, pourquoi je dis ça ? Parce que c'est un hébreu extraordinairement archaïque, et donc difficile. Parce qu'il y a aussi ça, il y a les niveaux de langue qu'on voit très très bien. Et ça, ça aide beaucoup à faire les couches. Mais là, c'est un hébreu très ancien, le chant de Déborah, Déborah qui, parce que des Philistins, on va en reparler après la pause, des groupes qui arrivent de la mer, des pirates qui arrivent de la mer, en gros les invasions normandes, les Philistins viennent dévaster le pays, appellent au secours les autres tribus d'Israël et fustigent les tribus qui là-bas au nord sont restées bien tranquilles sous leurs tentes pendant que les autres au sud étaient en train de se battre. Le chant de Déborah se termine par une grande louange envers Yaël, une femme d'Israël, qui a su pénétrer dans la tente du chef philistin Sisera et lui couper la tête, le tuer. Je ne sais pas si elle lui a coupé la tête. Non, elle lui enfonce un pieu dans la gorge. Ah, mais les femmes avaient un tempérament. C'est le chant de Déborah, juge 5, lisez, c'est un poème d'appel à la guerre, d'appel à la guerre et de célébration de la victoire grâce à Yaël qui a tué le chef. Ouais. Donc ces juges, on ne sait pas trop ce que c'est. C'était des petits groupes avec des chefs locaux, voilà, avec une tendance à se réunir, une tendance aussi à se disputer quand il y avait des litiges de frontières, et avec le sentiment de plus en plus grand qu'il faudrait un jour se réunir. À ce moment-là, il faudra un roi. Le livre des juges se termine par une drôle de phrase, pas tout à fait, mais presque vers la fin, répétée deux fois, et qui est très ambiguë. Je trouve que c'est très intéressant dans les relectures qui ont été faites. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qu'il voulait. Alors vous pouvez interpréter ça comme vous voulez. Soit, ah, est-ce que c'était bien ? On avait la paix, pas de roi et chacun faisait ce qu'il voulait. C'était l'époque bénie, sans roi, quand on aura le roi sur le dos, évidemment. Vous pouvez aussi le lire. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi et c'était la pagaille, c'était l'anarchie. Mais le livre des juges ne livre pas d'explication. Donc, on reprendra ça après la pause. 10 minutes de pause pour un peu souffler.